Chapitre 7. Un enclos à chèvres. Sous le ciel sans nuages du Géaldan, les collines boisées encaissaient difficilement les assauts d'un soleil matinal déjà brûlant. Même avant midi, le pays crevait de chaud. À cause de la sécheresse, les pins, les lauréoles et d'autres arbres que Perrine classait aussi dans la catégorie des résineux jaunissaient, alors qu'ils auraient dû rester éternellement verts. Comme il n'y avait pas un souffle d'air pour la sécher, la sueur ruisselait sur le visage du jeune homme, empoissant sa barbe après lui avoir plaqué les cheveux sur la tête. Très loin, à l'ouest, il lui semblait avoir entendu des roulements de tonnerre, mais il en était arrivé à croire que la pluie ne se remonterait plus jamais. Au lieu de rêver à travailler de l'argent, un homme raisonnable martelait le fer qu'il trouvait chaque jour sur son enclume. Posé au sommet d'une butte, Perrine étudiait Bétal, une ville fortifiée, avec une longue vue cerclée de cuivre. Même avec ses yeux hors du commun, on pouvait avoir besoin d'aide sur une telle distance. Cité d'une taille considérable, Bétal était composé de bâtiments aux toits de tuiles et d'une demi-douzaine de grandes structures de pierre qui devaient être les palais de quelques nobliaux ou les résidences de marchands fortunés. De si loin, impossible de voir les détails de l'étendard rouge qui flottait au vent sur la plus haute tour du plus grand bâtiment. Le seul drapeau en vue, qui appartenait à Aliandre Marita Kigarine, la reine du Géaldan, très loin décidément de sa capitale nommée Jeana. Surveillée par une bonne vingtaine de gardes chacune, toutes les portes de la ville étaient ouvertes. Pourtant, personne n'en sortait, et on ne voyait pas âme qui vive sur les routes qui menaient à Bétal, à part un unique cavalier venant du nord, qui chevauchait ventre à terre. Les soldats vers lesquels il avançait semblaient nerveux, comme s'il avait brandi une épée à la lame rouge de sang. Sur les remparts et au sommet des tours, d'autres hommes observaient la progression de l'inconnu, leur arbalète ou leur arc prêt à tirer. La peur régnait sur cette ville. De fait, une tempête avait fait rage dans cette partie du Géaldan, et ça continuait. Les hordes du prophète semaient le chaos. Les brigands en profitaient pour sévir, et les capes blanches multipliaient les raids depuis la Madicia. Au sud, des colonnes de fumée indiquaient que des fermes étaient probablement en train de brûler. L'œuvre des fils de la lumière ou des hommes du prophète. Les brigands incendiaient rarement les lieux qu'ils pillaient. Et de toute façon, leurs concurrents ne leur laissaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Histoire d'ajouter à la confusion ambiante, dans tous les villages que Perrine avait traversés ces derniers jours, des rumeurs annonçaient qu'Amador était tombé. Sous les coups du prophète, des Tarabonais ou des Aes Sedai, selon qui racontait l'histoire. On prétendait même que Pedron Nial était mort en défendant la ville. Tout bien pesé, ça justifiait qu'une reine s'inquiète pour sa sécurité. À moins que Perrine lui-même soit la cause de cette nervosité. Malgré tous ses efforts, son incursion au sud n'était pas passée inaperçue. Le jeune homme se gratta la barbe, pensif. Malheureusement, les loups qui rôdaient dans les collines environnantes ne pouvaient rien lui dire. Mais il ne s'intéressait pas aux faits et gestes des humains, se contentant d'en rester le plus loin possible. En outre, depuis les puits de Doumaï, Perrine ne se sentait plus le droit de demander de l'aide à ses frères à quatre pattes, sauf quand c'était inévitable. Tout bien pesé, il valait peut-être mieux qu'il entre dans la cité avec une petite escorte d'hommes de Deux-Rivières. Très souvent, Perrine avait le sentiment que Fayle lisait dans son esprit, surtout quand ça le dérangeait le plus. Elle en donna la preuve une nouvelle fois, talonnant Hirondelle, sa jument noire, pour qu'elle vienne se placer à hauteur du cheval de son mari. Portant une tenue d'équitation presque aussi sombre que la robe de sa monture, la jeune femme semblait pourtant supporter la chaleur bien mieux que son époux. Perrine capta une odeur de savon aux herbes et de transpiration saine et propre, le parfum unique de sa bien-aimée, avec une nuance de détermination, comme toujours. Ses yeux inclinés exprimant toute la force de sa volonté, Fayle, avec son nez un peu crochu, ressemblait beaucoup à un faucon, l'oiseau de proie dont elle ne portait pas le nom par hasard.
« Mon époux, je détesterais voir des trous dans cette jolie veste bleue, »
murmura Fayle pour les seules oreilles de son mari.
« Et ces hommes, là-bas, m'ont l'air tout disposés à cribler de carreaux le premier groupe d'étrangers qui leur tombera sous l'arbalète. En outre, comment comptes-tu arriver jusqu'à Aliandre sans crier ton nom à tue-tête? Cette mission est secrète, ne l'oublie pas. »
Fayle n'ajouta pas qu'elle devait y aller. Dans le même ordre d'idées, elle ne précisa pas que les gardes prendraient une femme seule pour une réfugiée et qu'il lui serait ensuite facile de rencontrer la reine en se servant du nom de sa mère et sans soulever beaucoup de commentaires. Cette chanson, avec bien d'autres couplets, Perrine l'entendait chaque soir depuis qu'ils étaient au Géaldan. Une visite en partie motivée par la lettre prudente envoyée à Rand par Aliandre qui proposait son soutien, son allégeance. En tout cas, Elle voulait que les choses se fassent discrètement. Perrine aurait juré que même Aram, pourtant monté sur son grand cheval gris juste derrière eux, n'avait pas entendu les propos de Feil. Malgré tout, avant même qu'elle ait fini de parler, Berelaine vint placer sa jument blanche sur l'autre flanc du cheval de Perrine. Sous un nuage de parfum à la rose, elle aussi sentait la détermination. Un nuage pour Perrine, en tout cas. Miracle des miracles, la robe d'équitation verte de la jeune femme ne dévoilait rien d'indécent. Les deux compagnons de Berelaine restèrent en arrière, même si Anoura, la Aes Sedai qui la conseillait, dévisagea Perrine avec une expression indéchiffrable, sous la cascade de fines tresses ornées de perles qui lui arrivaient jusqu'aux épaules. Elle dévisageait seulement Perrine, pas les deux femmes qui le flanquaient. Et bien entendu, elle ne transpirait pas. Le jeune homme aurait donné cher pour être assez près et capter l'odeur de la sœur grise. Contrairement à l'autre Aes Sedai, elle n'avait rien promis à personne. Quoi que puisse valoir les promesses en question. L'autre compagnon de Berelaine, le seigneur Galen, observait Bétal par l'intermédiaire d'une longue vue collée à son œil unique. Le voyant jouer avec ses rênes, Perrine en déduisit qu'il était plongé dans de profonds calculs. Chef des gardes-ailés de Berelaine, ce soldat né devait être en train d'imaginer un moyen de prendre Bétal par la force. D'un caractère plutôt sombre, il envisageait toujours la pire possibilité en premier.
« Je suis toujours convaincu que je dois y aller et contacter Aliandre, »
dit Berelaine. Cette sérénade-là, Perrine la connaissait également par cœur.
« Après tout, c'est pour ça que je suis venu. »
Enfin, en partie.
« Anoura obtiendra sans peine une audience et m'emmènera avec elle sans que personne s'en avise, à part Aliandre. »
Miracle encore plus stupéfiant que la sobriété de sa robe, il n'y avait pas une once de séduction dans la voix ou le comportement de la première dame. À dire vrai, elle semblait s'intéresser davantage à ses gants d'équitation rouge, les lissant consciencieusement, qu'à Perrine. Alors, laquelle choisir? Eh bien, ni l'une ni l'autre. Si le jeune homme s'était écouté. Séonide, une autre Aes Sedai, était elle aussi arrivée au sommet de la butte. Campée à côté de son hongre baie, près d'un grand arbre dénudé par la sécheresse, elle ne s'intéressait pas à Bétal, mais observait le ciel. Les deux matriarches aux yeux clairs qui se tenaient à ses côtés n'auraient pas pu être plus différentes d'elle. La peau tannée par le soleil, alors qu'elle était toute palote, les cheveux roux, alors qu'elle était brune, plus grande d'une bonne tête. Même leurs vêtements, une jupe sombre et un chemisier blanc, faisaient un vif contraste avec sa délicate robe de laine bleue. De plus, alors qu'Edara et Nevarine trimbalaient toute une quincaillerie de colliers et de bracelets d'or, d'argent ou d'ivoire, Séonide arborait uniquement sa bague au serpent. Enfin, face au visage sans âge de la Aes Sedai, les deux aïels resplendissaient simplement d'une superbe jeunesse. Cela dit, les matriarches étaient tout aussi impassibles que la sœur, et elles aussi regardaient le ciel.
« Vous voyez quelque chose ?»
demanda Perrine, sautant sur le premier prétexte venu pour différer sa décision.
« Oui, le ciel, Perrine Aibara, »
répondit Edara. Quand elle ajusta son châle, la chaleur avait aussi peu de prise sur les matriarches que sur les Aes Sedai, ses bijoux tintinabulèrent joliment.
« Si nous avions vu autre chose, nous te l'aurions dit. »
Ça, Perrine l'espérait. Et il le croyait même, à condition qu'il s'agisse de quelque chose que Grady et Méhald pouvaient voir aussi. Parce que les deux achamans n'étaient pas du genre à faire des cachotteries. Dommage qu'ils soient restés au camp. Un peu moins d'une semaine plus tôt, l'apparition très haut dans le ciel d'un étrange flux de pouvoir avait quasiment semé la panique parmi les Aes Sedai et les matriarches. Grady et Méhald avaient eux aussi été secoués. Et quand elle l'avait su, les sœurs s'étaient agitées encore plus, bouleversées que des hommes puissent voir une chose pareille. Après la disparition du phénomène, les Aes Sedai, les matriarches et les achamans avaient tous déclaré qu'ils sentaient toujours dans l'air la présence discrète du pouvoir. Mais personne n'avait pu fournir un début d'explication. Seul Néald avait dit que ce phénomène le faisait penser au vent, ajoutant qu'il ne savait absolument pas pourquoi. Personne ne s'était avancé davantage. Cela dit, si le Saïdar et le Saïdin s'étaient combinés, il le fallait, sinon les achamans n'auraient rien vu, ça signifiait que les rejetés étaient à l'œuvre quelque part, et pas à une petite échelle. À force de se demander ce qu'ils mijotaient, Perrine avait fort mal dormi, toute cette dernière nuit. Malgré lui, il leva les yeux vers le ciel. Bien entendu, il ne vit rien, à part deux pigeons. Sans crier gare, un faucon piqua vers les malheureux oiseaux, et l'un d'eux disparut dans une envolée de plumes. Terrorisée, l'autre partie attire d'elle en direction de Bétal.
As-tu arrêté ta décision, Perrine Aybara ?
Demanda Névarine d'un ton un rien acerbe. Plus jeune encore qu'Edara, cette matriarche aux yeux verts, peut-être à peine plus âgée que Perrine, n'avait pas encore la sérénité de sa compagne aux yeux bleus. Son châle glissant le long de ses bras, elle se campa devant Perrine, les poings plaqués sur les hanches. Un moment, le jeune homme redouta qu'elle braque sur lui un index menaçant, voire qu'elle lui montre le poing. Bien qu'elle n'ait aucun point commun, physiquement parlant, cette femme avait quelque chose de Ninévée.
« À quoi bon te donner notre avis, si tu n'en tiens pas compte ?»
Fail et Berelaine se redressèrent sur leurs selles, à la fois altières et très légèrement hésitantes. Une réaction qui les énervait, car elles détestaient toutes les deux l'hésitation. Quant à Séonide, ses lèvres pincées en disaient long sur son humeur. L'ordre que lui avait donné Edara, se taire quand on ne s'adressait pas à elle, l'avait mise en rage. Cela dit, elle désirait sûrement qu'il écoute le conseil des matriarches. Pour le pousser dans ce sens, elle regardait Perrine intensément, comme si des yeux, si insistants fussent-ils, avaient pu l'influencer. En fait, c'était elle que le jeune homme voulait choisir, mais il se tâtait encore. Jusqu'où pouvait tenir le serment d'allégeance que cette femme avait prêté à Rand ? Eh bien, jusque très loin, si on se fiait aux preuves accumulées au fil du temps. Mais une Aes Sedai était-elle vraiment digne de confiance ? L'arrivée des deux champions de Séonide permit à Perrine de tergiverser encore un peu. Bien qu'ils soient partis chacun de leur côté, les deux hommes revenaient ensemble, longeant les arbres afin de ne pas être vus depuis la ville. Fouren, un Théarien, avait la peau aussi noire qu'un bon terreau et des cheveux d'ébène grisonnants. Plus jeune de 20 bonnes années, Théril, un Mourandien, était un rouquin à la moustache recourbée et aux yeux plus bleus que ceux d'Edara. Deux hommes aussi différents que possible et pourtant coulés dans le même moule. De grands types minces, musclés et durs comme l'acier. Ils mirent pied à terre, leur cape caméléon changeant sans cesse de couleur et, dédaignant les matriarches et Perrine, vinrent faire leur rapport à Séonide.
« C'est pire que dans le nord !»
annonça Fouren, dégoûté. Quelques gouttes de sueur brillaient sur son front, mais comme son compagnon, il ne paraissait pas vraiment affecté par la chaleur.
« Les nobles du coin sont enfermés dans leur manoir ou en ville, et les soldats de la reine ne s'aventurent pas hors des fortifications. En d'autres termes, ils ont abandonné la région aux hordes du prophète et aux brigands, bien qu'ils semblent assez peu nombreux par ici. En revanche, les fidèles du prophète grouillent partout. Selon moi, Aliandre sera ravi de te voir.
« De la racaille !»
s'écria Théril.
« J'en ai jamais vu plus de 15 à la fois, armés de fourches ou de lances à sangliers. Des locteux, capables de terroriser des paysans, bien sûr. Mais les seigneurs devraient les avoir tous fait pendre depuis longtemps. La reine embrassera la main d'une sœur. »
Séonide ouvrit la bouche, puis elle regarda Edara, qui lui fit signe de parler. Une humiliation de plus, et qui n'améliora pas l'humeur de la sœur verte.
« Seigneur Aybara, il n'y a plus de raison de différer ta décision. »
Histoire de rappeler que Perrine n'y avait pas vraiment droit, Séonide avait lourdement mis l'accent sur le « Seigneur ».«
Ta femme est née dans une grande maison, et Berelaine règne sur un pays. Certes, mais ici, les maisons du Saldaea comptent peu. » Et Mayenne est la plus petite nation du monde. Choisis une Aes Sedai comme émissaire, et tu auras, aux yeux d'Aliandre, tout le poids de la tour blanche avec toi. »
Se souvenant sans doute qu'Anoura pouvait en dire tout autant qu'elle, Séonide ajouta.
« De plus, je suis déjà allé au Gué-Aldan, où mon nom est bien connu. Aliandre me recevra immédiatement, et elle prêtera l'oreille à mes propos. Névarine et moi, nous l'accompagnerons. »
Intervint Edara. Sa compagne acquiesça.
Nous ferons en sorte qu'elle ne dise pas un mot de travers. »
Perrine entendit grincer les dents de Séonide, qui baissa les yeux et fit mine de lisser sa robe. Anoura eut un grognement désapprobateur. Restant aussi loin que possible des matriarches, elle détestait voir une sœur frayer avec elle. Perrine eut envie de rugir. Envoyer la sœur verte l'aurait bien arrangée, mais les matriarches se fiaient encore moins que lui aux Aes Sedai, et elle ne lâchait pratiquement jamais du regard Séonide et Massouri. Dans les villages, il y avait aussi des rumeurs au sujet des Aiel. Si personne au Gué-Aldan n'avait encore vu un sauvage en chair et en os, on racontait qu'ils s'étaient rangés du côté du dragon réincarné et qu'ils attaqueraient bientôt le pays. Chaque histoire au sujet de ces guerriers étant plus atroce que la précédente, Aliandre risquait d'être effrayé après avoir vu une Aes Sedai soumise à deux Aiel. Et même si elle grinçait des dents, Séonide était bel et bien soumise. D'autre part, pas question de faire courir des risques à Fail, sans autre garantie qu'une lettre ambiguë reçue des mois plus tôt. En d'autres termes, les options de Perrine étaient très limitées, chacune ayant son lot d'inconvénients.
Un petit groupe franchira plus facilement les portes de la ville,
dit-il en rangeant sa longue-vue dans une de ses sacoches de sel. De plus, un petit groupe ferait moins parler les gens.
Ce sera Anoura et toi, Berelain. Avec éventuellement le seigneur Galen, qui passera pour le champion d'Anoura.
Berelain en soupira d'aise. Puis elle se pencha pour prendre le bras de Perrine entre ses mains. Bien entendu, elle n'en resta pas là. Ses doigts pressèrent doucement la peau du jeune homme, et elle le gratifia d'un sourire plein de promesses. Puis elle se redressa avant qu'il ait pu esquisser un mouvement, l'air innocente comme l'agneau qui vient de naître. Glacial, Feil tira sur ses gants d'équitation. À son odeur, Perrine déduisit qu'elle n'avait pas vu le sourire provoquant de Berelain, et elle cachait très bien sa déception.
« Feil, je suis navré, mais... »
L'odeur âcre de l'indignation domina soudain celle du savon aux herbes.
« Mon époux, tu as sans doute des choses à dire à la première dame avant son départ. »
Comment pouvait-on avoir un regard si serein et une odeur si agressivement piquante ?«
Tu devrais aller la voir maintenant. »
Faisant volter Hirondelle, Feil alla rejoindre Séonide, qui ne cachait pas sa fureur, et les deux matriarches au visage fermé. Mais elle ne mit pas pied à terre et ne s'adressa pas aux trois femmes. Tel un faucon dans son air, elle se contenta d'observer sombrement Bétal. S'avisant qu'il se tâtait le nez, Perrine baissa la main. Il n'y avait pas de sang, bien entendu. C'était seulement une impression. Berelain n'avait aucun besoin d'instruction de dernière minute. Certaine de savoir tout ce qu'il fallait dire et faire, sa conseillère et elle bouillaient d'impatience de partir. Perrine prit quand même la peine de les inciter à la prudence. Puis il rappela que Berelain seul devrait parler avec Aliandre. Gratifiant le jeune homme d'un regard glacial, Anoura hocha la tête. Une façon de donner son assentiment? Peut-être, et peut-être pas. De toute façon, même en la mettant à la question, Perrine n'aurait rien pu obtenir de plus explicite. Approuvant tout ce qu'il disait, ou du moins le feignant, Berelain afficha cependant un petit sourire amusé. Pour obtenir ce qu'elle voulait, cette femme était capable de dire n'importe quoi, et ce sourire, eh bien, avait quelque chose d'inquiétant. Galen avait rangé sa longue vue, mais il continuait à jouer avec ses rênes, imaginant sans doute une façon de faire sortir les deux femmes de Bétal par la force. De nouveau, Perrine eut envie de rugir. Très inquiet, il regarda les trois cavaliers descendre le versant de la colline. Le message que devait transmettre Berelain était très simple. Rand comprenait la prudence d'Aliandre, mais si elle voulait sa protection, elle devait accepter de le soutenir ouvertement. Une fois qu'elle aurait accompli cette démarche, cette protection viendrait sous la forme de soldats et d'achamans, histoire que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agissait, et même de Rand en personne, si ça s'imposait. Berelain n'avait aucune raison de modifier le message d'un iota, en dépit de son étrange sourire. Une variation sur le thème de la séduction aurait parié Perrine. Anoura, en revanche, les Aes Sedai agissaient comme bon leur chantait, et le plus souvent, la lumière seule connaissait leur motivation. Bref, Perrine aurait donné cher pour avoir un moyen de contacter Aliandre sans recourir à une sœur ni attirer l'attention. Et sans mettre Feil en danger, bien sûr. Quand les trois cavaliers, Anoura en tête, atteignirent les portes de la ville, les gardes baissèrent leurs arcs et leurs arbalètes. Sans doute parce que l'Aes Sedai leur avait décliné son identité. Très peu de gens avaient le cran de mettre en question une affirmation pareille. Quelques instants plus tard, le trio repartit, Anoura ouvrant le chemin dans les rues de la ville. En fait, les soldats avaient même paru pressés de faire entrer les visiteurs, histoire peut-être de les soustraire au regard de gens cachés dans les collines. Certaines sentinelles, sur les remparts, sondaient les hauteurs environnantes, et Perrine n'avait pas besoin de sentir leur odeur pour capter leur angoisse, au sujet d'éventuels espions qui auraient pu reconnaître une sœur. Orientant sa monture vers le nord, Perrine avança à l'abri de la crête, jusqu'à ce que les tours de Bétal soient hors de vue, puis il revint sur la piste en terre. Des deux côtés, quelques fermes se dressaient de ci de là, avec leur habitation au toit de chaume, leurs granges longues et étroites, leurs champs ravagés par la sécheresse et leur grand enclos à chèvres au mur de pierre, l'équivalent d'une bergerie à deux rivières. Cela dit, on voyait fort peu de bétail et encore moins de paysans. Comme des oies observant des renards, ces derniers regardaient les cavaliers avec une franche hostilité, interrompant leur travail en cours jusqu'à ce qu'ils soient passés. Aram ne quitta pas des yeux ses fermiers. Parfois, il touchait du bout des doigts la poignée de l'épée accrochée dans son dos, laissant penser qu'il aurait aimé être confronté à autre chose que des paysans. Même s'il portait une veste verte à rayures, cet homme n'avait plus rien d'un Zingaro. Edara et Nevarine avançaient derrière Marcheur, bavardant comme s'il s'agissait d'une promenade. Pourtant, Malgré leurs lourdes jupes et leur nonchalance, elles ne perdaient pas une once de terrain. Séonide suivait sur son hongre, Fouraine et Terril sur ses talons. Si la sœur verte au teint pâle prétendait marcher derrière les matriarches pour une question de distance de sécurité, les deux champions foudroyaient du regard les aïels. Souvent, la dignité de leur Aes Sedai comptait plus à leurs yeux qu'à ceux de la sœur en question, qui avait pourtant souvent une susceptibilité de reine. Fail chevauchait en silence sur un flanc des aïels. Apparemment, elle étudiait le paysage desséché. Mince et gracieuse, elle donnait souvent à Perrine le sentiment de n'être qu'un lourdeau. Du vif argent, cette femme. Une des raisons pour lesquelles il l'aimait, sauf à certaines occasions. Une brise s'était levée, suffisante pour charrier l'odeur de Fail jusqu'aux narines du jeune homme. Normalement, il aurait dû réfléchir à Aliandre, essayant d'anticiper sa réponse. Ou mieux encore, il aurait pu penser au prophète et au moyen de lui mettre la main dessus une fois que la reine aurait répondu au message. Mais dans sa tête, il n'y avait de place que pour Fail. Même si Rand avait envoyé Berelaine avec lui dans ce dessein précis, Perrine ne trouvait pas étonnant que sa femme lui en veuille d'avoir choisi sa rivale. En outre, Fail savait qu'il faisait tout pour ne pas la mettre en danger. Et elle abominait ça encore plus qu'elle détestait Berelaine. Pourtant, l'odeur de la jeune femme était restée douce comme de la rosée d'été, jusqu'à ce qu'il tente de s'excuser. En règle générale, les excuses augmentaient sa colère, sauf quand elles avaient l'effet inverse, sans qu'on sache pourquoi. Mais dans ce cas précis, elle n'avait pas été en colère. Si on oubliait Berelaine, leur vie de couple se déroulait sans anicroche. Enfin, la plupart du temps. Mais quand il avait voulu expliquer qu'il n'avait rien fait pour encourager la séductrice, bien au contraire, sa femme lui avait renvoyé à la figure un « bien entendu que tu n'as rien fait » qui semblait sincère, même si le ton suggérait qu'il était un vrai crétin d'avoir abordé le sujet. Malgré ça, Fail continuait à devenir folle de rage, contre lui, chaque fois que Berelaine lui souriait ou trouvait un prétexte pour le toucher. Pourtant, il la rabrouait immanquablement, souvent en oubliant les règles de base de la galanterie. Mais rien à faire pour convaincre Fail de sa bonne foi. Allait-il devoir saucissonner la première dame sur sa selle, histoire de la neutraliser définitivement? Dès qu'il essayait de savoir ce qu'il avait fait de mal, Perrine s'attirait à un nonchalant « Pourquoi penses-tu avoir fait quelque chose ?» ou un « Que crois-tu avoir fait ?» bien moins indulgent. Ou encore un « Je ne veux pas parler de ça !» catégorique. À l'évidence, il ne faisait pas ce qu'il aurait dû faire. Mais qu'aurait-il dû faire, bon sang ? Coûte que coûte, il devrait trouver, parce que rien, pour lui, n'était plus important que Fail.
« Seigneur Perrine ? »
La voix tendue d'Aram arracha Perrine à ses sombres pensées.
« Ne m'appelle pas comme ça !»
marmonna-t-il en regardant dans la direction que le Zingaro désignait du doigt. Une autre ferme abandonnée dans le lointain. Son toit incendié comme celui de la grange. Abandonnée, sans doute, mais pas déserte, si on se fiait aux cris furieux qui en montaient. Une bonne dizaine de types vêtus de quasi-haillons et armés de fourches ou de lances tentaient d'escalader le muret d'un enclos à chèvres. À l'intérieur, d'autres hommes tentaient de les en empêcher. De l'autre côté du muret, plusieurs chevaux effrayés par le bruit et les mouvements brusques hennissaient nerveusement. Trois d'entre eux avaient une cavalière. Mais ces femmes ne se contentaient pas d'attendre l'issue de l'escarmouche. L'une d'entre elles lançait des pierres aux assaillants, une autre jouait de la massue en virtuose et la troisième faisait ruer sa monture en direction du muret, forçant un des agresseurs à se laisser précipitamment retomber de l'autre côté. Mais les assaillants étaient trop nombreux et la zone à défendre trop étendue.
« Je te conseille de faire un grand détour, »
dit Séonide. Et Dara et Nevarine la foudroyèrent du regard, mais elle ne se laissa pas démonter.
« Ce sont sûrement des hommes du prophète, et tuer ses fidèles ne serait pas une bonne prise de contact. Si tu ne parviens pas à traiter avec lui, des dizaines, voire des centaines de milliers de gens mourront. Faut-il courir ce risque pour sauver quelques individus ?»
Perrine comptait bien ne tuer personne, si c'était possible. Mais il n'était pas question qu'il ferme les yeux sur des exactions. Cela dit, l'heure n'était pas aux justifications, mais à l'action.
« Edara, tu peux faire peur à ces types ? Seulement les effrayer ?»
Dans l'esprit de Perrine, le souvenir des matriarches au puits de Doumaï était encore très vif, sans parler des achamanes. Au fond, il valait peut-être mieux que Grady et Néald ne soient pas là.
« Peut-être, »
répondit Layel en étudiant les belligérants.
« Oui, c'est possible. »
Il allait falloir se contenter de cette réponse évasive.
« Aram, Fouraine, Terril, avec moi !»
cria Perrine. Alors que Marcheur partait au galop, il fut soulagé de voir que les deux champions le suivaient. Pour les Sbrouffes, quatre hommes qui chargent étaient préférables à deux. Gardant les mains sur les rênes, très loin de sa hache, Perrine ne fut pas soulagée du tout de voir que Fail l'avait suivi aussi et galopait maintenant à ses côtés, mais quand il ouvrit la bouche, elle le foudroya du regard. Flottant ainsi au vent, ses cheveux noirs étaient magnifiques. Une femme superbe. Prudent, Perrine dit autre chose que ce qu'il avait prévu.
« Surveille mes arrières !»
Avec un sourire, Feil dégaina un de ses couteaux. Avec toutes les lames qu'elle trimbalait, Perrine avait de la chance de ne pas se faire transpercer la peau chaque fois qu'il l'étreignait. Dès que sa femme regarda de nouveau devant elle, le jeune homme fit de grands gestes à Aram, en prenant garde à ne pas être vu de sa bien-aimée. Le Zingaro hocha affirmativement la tête. Mais il était penché en avant, l'âme au clair, apparemment prêt à tailler en pièces le premier disciple du prophète qui lui tomberait entre les mains. Avait-il compris qu'il devrait couvrir Feil s'il y avait pour de bon du grabuge? Les assaillants n'avaient toujours pas remarqué les renforts. Perrine lança un cri de guerre, mais ses crétins beuglaient si fort qu'ils n'entendirent rien. Un homme qui flottait dans sa veste avait réussi à se percher sur le muret, et deux de ses compagnons semblaient sur le point d'y parvenir. Si les matriarches envisageaient d'intervenir, c'était le moment ou jamais. Un roulement de tonnerre retentit soudain, assourdissant Perrine et manquant faire rater une foulée à marcheurs. Ce bruit-là, tous les combattants l'entendirent, et ils regardèrent autour d'eux, certains se plaquant les mains sur les oreilles. L'homme, debout sur le muret, perdit l'équilibre et bascula en arrière. Mais il se releva aussitôt, puis désigna l'enclos aux autres, leur intimant de continuer l'assaut. Deux ou trois agresseurs virent alors Perrine. Ils donnèrent l'alerte, mais pas un de leurs compagnons ne détala, certains levant au contraire leurs armes. Une roue de feu horizontale se matérialisa soudain au-dessus de l'enclos. Large de six bons pieds, elle projetait de courtes lances de flammes, tout en émettant un rugissement qui tenait à la fois de la plainte déchirante et du chant funèbre. Les attaquants se débandèrent. Quelques secondes durant, Veste trop grande tenta de les rameuter, puis il prit lui aussi la poudre d'escampette. Perrine aurait bien ri de joie. Aujourd'hui, il n'allait devoir tuer personne. Et plus besoin de craindre que Feil reçoive un coup de fourche dans le ventre. Apparemment, les défenseurs étaient aussi effrayés que leurs adversaires. La femme qui avait utilisé les sabots de son cheval comme des armes ouvrit la porte de l'enclos, la franchit et détala au grand galop, dans la direction opposée à celle de Perrine et de ses compagnons.
« Attends !»
cria le jeune homme.
« Nous ne te ferons pas de mal !»
Qu'elle ait entendu ou non, la cavalière continua à filer comme le vent, le baluchon attaché derrière sa selle oscillant dans tous les sens. Les assaillants se dispersaient, certes, mais si cette femme s'en allait seule, deux ou trois d'entre eux pourraient lui faire beaucoup de mal. Se couchant sur l'encolure de son cheval, Perrine le talonna et cria pour le stimuler. Même si son cavalier pesait son poids, Marcheur était solide, et malgré son nom, il savait faire autre chose qu'avancer inlassablement. De plus, la monture de la femme, la foulée pataude, ne semblait pas habituée à avoir une selle sur le dos. La poursuite fut donc assez brève, Perrine saisissant les rênes de l'autre équidé dès qu'il fut arrivé à sa hauteur. Vu de près, ce cheval n'était qu'un pauvre canasson maigre, épuisé et déjà à bout de souffle après quelques longueurs de course.
« Désolé de t'avoir effrayé, maîtresse. »
dit Perrine, dès que les deux chevaux se furent immobilisés.
« Crois-moi, je ne te veux aucun mal. »
Pour la deuxième fois de la journée, les excuses de Perrine firent lamentablement long feu. Sur un visage aux traits aristocratiques, encadré de longs cheveux blonds roux bouclés, deux yeux bleus se rivèrent rageusement dans ceux du jeune homme. Les joues maculées de sueur et de poussière, la femme portait une robe en laine des plus ordinaires, mais sa colère, elle, semblait vraiment être hors du commun.
« Je n'ai pas besoin !»
commença-t-elle, en tentant d'arracher les rênes de sa monture à Perrine. Elle s'interrompit en avisant une autre cavalière, qui approchait sur une jument marron en encore plus piteux état que son cheval. Émaciée, les cheveux blancs, la femme ne paraissait pas bien mieux portante. Ses gens avaient dû chevaucher ventre à terre pendant longtemps, si on se fiait à l'état de saleté de leurs vêtements.
« Merci, monseigneur !»
dit la nouvelle venue avec un sourire pour Perrine et un regard noir à l'intention de la fugitive. Sursautant quand elle remarqua les yeux jaunes de Perrine, elle ne se laissa pourtant pas démonter longtemps. Pas le genre de femme à s'effaroucher pour un rien. D'ailleurs, elle brandissait toujours le gros bâton qu'elle utilisait comme une massue.
« Megdine, quoi que tu en penses, ces braves gens sont arrivés juste à temps. Tu aurais pu te faire tuer, et nous tous avec toi. Oh, Seigneur, cette fille est une tête de mule et elle parle avant d'avoir réfléchi. N'oublie pas, mon enfant, un imbécile abandonne ses amis et échange son argent contre du cuivre. Nous te remercions, Seigneur, et Megdine le fera aussi, dès qu'elle aura recouvré ses esprits. »
De 10 bonnes années au moins plus vieille que Perrine, Megdine n'avait rien d'une fille, sauf si on la comparait à sa vénérable compagne. Cela dit, malgré une moue méfiante qui allait parfaitement avec ce qu'indiquait son odeur, un mélange de frustration et de fureur, elle accepta les remontrances de son aîné et ne tira plus qu'une seule fois sur les rênes, sans véritable conviction, avant de capituler. Cependant, elle regarda Perrine d'un air morose, puis sursauta, ses yeux jaunes, une fois de plus. Mais pour une fois, le jeune homme ne capta pas de peur dans l'odeur de Meigdine. La vieille femme était terrorisée, elle, mais ce n'était pas à cause de lui. Un autre compagnon de Meigdine, un homme mal rasé monté sur un cheval aussi piteux que les autres, s'était approché pendant la tirade de la vieille femme, mais en restant quand même un peu en retrait. Aussi grand que Perrine, mais moins baraqué, il portait une veste sombre et limée, un ceinturon d'armes bouclé par-dessus. Comme pour les femmes, un baluchon était attaché à l'arrière de sa selle. La brise charriant l'odeur du type jusqu'à ses narines, Perrine constata qu'il n'avait pas peur. En revanche, il était méfiant. Et s'il fallait en juger par la façon dont il regardait Megdine, c'était par souci de la protéger qu'il restait sur ses gardes. Cette affaire était peut-être plus compliquée qu'il y paraissait au premier abord.
« Vous devriez tous venir dans mon camp, »
dit Perrine en lâchant les rênes de Megdine.
« Vous y serez à l'abri des brigands. »
Un instant, il sembla que Megdine allait partir au galop et ne plus jamais se retourner. Mais elle fit faire demi-tour à sa monture, de la résignation se mêlant à son odeur. Pourtant, elle ne céda pas.
« Merci de cette proposition, »
dit-elle.
« Mais je... nous devons continuer notre voyage. En route, Lini. »
La vieille dame regarda froidement sa compagne, si froidement que Perrine, un instant, se demanda si ces deux-là n'étaient pas mère et fille, malgré la façon dont elles s'adressaient l'une à l'autre. Cela posé, elles ne se ressemblaient pas. Alors que Lini avait un visage étroit et tout ratatiné, Megdine devait être très belle une fois débarbouillée, quand on aimait les cheveux blonds. Par-dessus son épaule, Perrine jeta un coup d'œil à l'homme, qui aurait eu bien besoin d'un rasoir. Un dur, ce gaillard-là, et peut-être un amateur de cheveux blonds. Voir quelqu'un qui les aimait beaucoup trop. Depuis l'aube des temps, des hommes s'attiraient des ennuis et en attiraient aux autres à cause des inclinations de ce genre. Près de l'enclos, toujours monté sur hirondelle, Fail observait les défenseurs qui n'en étaient toujours pas sortis. L'un d'eux était peut-être blessé. Alors que Séonide et les matriarches n'étaient nulle part en vue, Aram se tenait à courte distance de Fail. Apparemment, il avait compris les ordres de Perrine. Mais il s'impatientait visiblement, maintenant que le danger était passé. Tandis que Perrine approchait de l'enclos, Terril déboula en tenant par le col un petit homme aux yeux de fouine et à la barbe de 3 jours.
« Je me suis dit qu'il fallait en capturer un !»
annonça le champion.
« Comme disait mon vieux père, même quand on croit avoir vu quelque chose, mieux vaut entendre les deux sons de cloche. »
Perrine ne s'attendait pas à ça. Jusque-là, il avait cru Terril incapable de voir plus loin que le bout de son épée. Même toute retroussée comme elle l'était, à cause de la prise de Terril, on voyait bien que la veste du petit homme était trop grande pour lui. De plus, Perrine reconnut son nez proéminent, un détail impossible à remarquer de si loin quand on n'avait pas sa vision acérée. Le prisonnier avait été le dernier à filer, et il n'était toujours pas intimidé.
« Vous êtes dans la mouise !»
lança-t-il soudain.
« Nous, on exécutait les ordres du prophète, vous comprenez? Si un gars embête une femme qui ne veut pas de lui, il doit mourir. C'est aussi simple que ça. Ce type poursuivait la blonde, là, et elle filait comme le vent. Pour vous punir, le prophète vous fera couper les oreilles.
« C'est ridicule !»
s'écria Megdine.
« Ces types, comme il dit, sont mes amis. Ce vaurien a mal interprété ce qu'il a vu. »
Perrine acquiesça. Si Megdine pensait qu'il était d'accord avec elle, grand bien lui fasse. Mais quand on ajoutait les propos du prisonnier à ceux de Lini, une affaire très compliquée, décidément. Fail et les autres arrivèrent, suivis par les autres compagnons de voyage de Megdine. 3 hommes et une femme, tous tirant par la bride des canassons, qui ne tarderaient pas à rendre l'âme, et qui n'étaient déjà pas de fiers étalons dans leur jeunesse. De sa vie, Perrine n'avait jamais vu une telle collection de dos maigrichons, de flancs creux, de boulets cagneux et de jambes tordues. Comme toujours, les yeux du jeune homme se tournèrent vers Fail, et ses narines se dilatèrent pour capter son odeur. Mais Séonide retint un instant l'attention de Perrine. Avachie sur sa selle, rouge comme une pivoine, elle avait l'air au plus mal avec ses joues gonflées et sa bouche entrouverte. D'ailleurs, entre ses dents, on voyait quelque chose de rouge et bleu qui... Perrine n'en crut pas ses yeux. Laes Sedai avait un foulard enfoncé dans la bouche. À l'évidence, quand les matriarches ordonnaient à une apprentie de se taire, elle ne plaisantait pas.
N'ayant pas non plus les yeux dans ses poches, Megdine en resta bouche bée lorsqu'elle vit Séonide. Comme s'il était responsable du bâillon, elle foudroya bien entendu Perrine du regard. Ainsi, cette femme était capable de reconnaître une Aes Sedai du premier coup d'œil ? Inhabituel chez une simple paysanne, dont elle n'avait ni le maintien ni le ton, soit dit en passant. Chevauchant derrière Séonide, Fouren semblait furieux. Mais ce fut Terril qui compliqua encore la situation en jetant un objet sur le sol.
« J'ai trouvé ça dans le sillage de notre charmante amie, »
dit-il,
« là où il a dû le laisser tomber. »
Au début, Perrine n'identifia pas l'objet. Un long cercle de peau sur lequel était enfilé ce qui paraissait être des morceaux de cuir à tatiner. Quand il comprit enfin de quoi il s'agissait, le jeune homme eut un rictus.
« Le prophète nous fera couper les oreilles. C'est bien ça que tu as dit. »
Le type cessa de regarder Séonide avec de grands yeux et s'humecta nerveusement les lèvres.
« Ce collier d'oreilles, c'est Harry qui l'a fait. Lui, c'est un vrai saligaud. Il aime prendre des trophées et garder le compte des... »
L'homme se recroquevilla dans sa veste déjà trop grande.
« Vous ne pouvez pas me coller ça sur les bras. Si vous me maltraitez, le prophète vous fera tous pendre. Il a déjà condamné des nobles à l'échafaud. Des grandes dames et des beaux seigneurs. Moi, je marche dans la lumière du seigneur dragon, qu'il soit mille fois béni. »
Perrine fit avancer Marcheur en s'assurant qu'il ne piétine pas l'immondice qui gisait sur le sol. Bien que n'ayant aucune envie de sentir l'odeur de l'ignoble prisonnier, il se pencha et inspira à fond. À présent, le type empestait la peur, voire la panique. Et il ne restait pas grand-chose de sa colère. Perrine regretta d'être incapable d'identifier la culpabilité. Là où il a dû le laisser tomber n'était pas la même chose que là où il l'a laissé tomber. Ses yeux de fouine s'écarquillant, le prisonnier recula autant que le lui permit la prise de Terril. Parfois, avoir les yeux jaunes se révélait très utile.
« Si je pouvais te coller ça sur les bras, je te ferais pendre à l'arbre le plus proche. »
L'homme ne comprit pas tout de suite et reprit un peu du poil de la bête dès que ce fut fait. Mais Perrine lui porta le coup de grâce.
« Je me nomme Perrine Aibara, et c'est ton précieux seigneur dragon qui m'envoie ici. Je suis son émissaire, et si je trouve un homme en possession de... trophées, il sera pendu haut et court. Pareil si je surprends un type en fin d'incendie une ferme, ou s'il ose simplement me regarder de travers. Tu peux aller répéter tout ça à Massema, misérable. »
Révulsée, Perrine se redressa.
« Laisse-le filer, Terril. S'il n'est pas très vite hors de ma vue... »
Terril lâcha le prisonnier, qui fila sans demander son reste ni regarder en arrière. En partie, Perrine était révulsée à cause de son propre comportement. Menacer ainsi des gens ? Pendre quelqu'un parce qu'il vous regarde de travers ? Cela dit, si le petit type n'avait pas coupé lui-même les oreilles, il avait vu d'autres hommes le faire et n'était pas intervenu. Fail souriait de fierté sous la sueur qui lustrait son visage. La voir ainsi chassa une bonne partie du malaise de Perrine. Pour qu'elle le regarde comme ça, il aurait marché pieds nus sur des charbons ardents. Tout le monde n'approuvait pas son numéro, cependant. Séonide plissait les yeux, les poings crispés sur ses rênes comme si elle crevait d'envie d'arracher le foulard et de lui jeter à la face ses quatre vérités. Enveloppés dans leur châle, Edara et Nevarine regardaient Perrine sans aménité. Deviner leurs pensées n'était pas difficile.
« J'avais cru comprendre que c'était une mission secrète, »
fit Terril en regardant le petit bonhomme disparaître dans un bosquet.
« Massema était censé ignorer ta présence ici, jusqu'à ce que tu lui parles dans le creux de l'oreille. »
C'était en effet le plan. Rand avait proposé qu'on procède ainsi. Séonide et Massouri le soutenant avec le plus grand enthousiasme. Au fond, et même s'il se prétendait prophète du seigneur dragon, Massema n'avait peut-être aucune envie d'affronter un émissaire de Rand, quand on songeait aux abominations qu'il avalisait. Si on en croyait les rumeurs, le collier d'oreille n'était pas la pire horreur, et de loin. Pour une fois d'accord avec les Aes Sedai, Edara et les autres matriarches voyaient Massema comme un ennemi qu'il fallait piéger avant qu'il puisse monter sa propre embuscade.
« Je suis chargé d'arrêter ça, »
dit Perrine, en désignant le collier d'oreille. Il avait entendu les rumeurs sans réagir vraiment, mais maintenant il savait.
« Autant commencer tout de suite. »
Et si Massema décidait de le tenir pour un ennemi ? Combien le prophète avait-il de disciples, motivés par la foi ou la crainte ?
« Ça doit s'arrêter, Terril. Il le faut. »
Le Mourandien regarda Perrine comme s'il le voyait pour la première fois.
« Seigneur Perrine ?»
dit soudain Megdine. Le jeune homme avait oublié sa présence et celle de ses amis, désormais tous massés autour d'elle. En plus de l'amateur de cheveux blonds, il y avait trois autres hommes, et deux d'entre eux se cachaient derrière leur monture. Mais pour la méfiance, Lini tenait le pompon. Le regard braqué sur Perrine, elle avait conduit son cheval près de celui de Megdine,
et elle semblait prête à arracher les rênes des mains de sa protégée. Pas pour l'empêcher de s'enfuir, mais pour l'y inciter et filer avec elle. Parfaitement détendue, Meigdine dévisageait également Perrine. Aucune surprise dans son regard, après avoir entendu parler du prophète et du dragon réincarné, et avoir vu une Aes Sedai bâillonner. Sans nul doute, songea Perrine, elle allait annoncer qu'elle partait sur le champ. Une grossière erreur.
Nous allons accepter ton offre généreuse, Seigneur. Un ou deux jours de repos dans ton camp nous feront le plus grand bien.
C'est tout à fait ça, maîtresse Meigdine,
réussit à dire Perrine. Cacher sa surprise n'eut rien d'un jeu d'enfant. D'autant plus qu'il venait de reconnaître les deux hommes qui tentaient, en vain, de se dissimuler derrière leur monture. Était-il là à cause de l'attraction qu'exerçait un taverne? Quelle que soit la réponse, la situation se compliquait singulièrement.
Oui, le plus grand bien, c'est certain.